Voici le journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Un couvre-feu, mais une quatrième nuit de tension à Minneapolis aux États-Unis après la mort d'un Afro-Américain suite à sa violente interpellation. Un policier arrêté inculpé d'homicide involontaire. La colère ne se calme pas, elle gagne même désormais d'autres villes américaines. Moment clé peut-être de la campagne présidentielle. En France, 3 jours pour boucler les listes en vue du second tour des municipales. Dans le journal Gros Plan sur Perpignan, ville convoitée par le Rassemblement National et Louis Alliot, ses opposants s'organisent. Manifestation ce matin à Maubeuge pour que le site Renault ne voit pas une grande partie de ses activités partir vers un autre site. Crise économique, coronavirus, la vie politique d'après, vous en parlez notamment à 8h20 avec votre invité Eric.
Oui, ce sera Nicolas Dupont-Aignan, le député de l'Essonne, président de Debout la France. Et vos questions à Nicolas Dupont-Aignan, c'est maintenant 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, l'Espagne qui crée un revenu minimum vital. En France, des restaurateurs qui se préparent à la réouverture prévue mardi prochain. Un tournoi de tennis en France, ça sera en juin. Et puis comme tous les week-ends sur Inter, rencontre avec un auteur qui concourt pour le livre Inter.
France Inter.
Arrêtez de nous tuer, la vie des Noirs compte. Slogan des manifestations cette nuit à New York, Phoenix, Atlanta et même Washington, juste en face de la Maison Blanche, 4 jours après la mort de George Floyd à Minneapolis. Cet homme de 46 ans a succombé après une arrestation pour un délit mineur. La scène filmée a choqué le monde entier. Un policier le maintenait avec son genou placé sur son cou. Après 3 nuits d'émeute, ce policier a été arrêté, inculpé d'homicide involontaire. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial à Minneapolis pour Inter. Un couvre-feu y a été instauré, mais tout de même des rassemblements cette nuit.
Oui, absolument, et notamment dans le sud de la ville, là où un commissariat a brûlé la nuit dernière. Ce quartier aujourd'hui était bouclé, même si à vrai dire il ne restait pas beaucoup de bâtiments debout. J'ai rencontré Maureen qui participait à une distribution alimentaire avant le couvre-feu, et justement parce que le supermarché du coin est détruit, voilà ce qu'elle en dit.
Je crois que c'était nécessaire. Ce que ce policier a fait était une atrocité. Il faut le dire haut et fort. Et parfois, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir des résultats.
Voilà, là donc, comme des milliers d'autres, braver le couvre-feu, stratégie payante puisque les forces de l'ordre ont d'abord reculé. La nuit n'est pas terminée, hein, mais a priori, le niveau de tension a baissé d'un cran, peut-être parce que le policier, vous le disiez, à l'origine de la mort de George Floyd, a été arrêté hier, 4 jours après les faits. C'est insuffisant, estime toutefois Edith, une autre manifestante.
Il a été arrêté et inculpé pour homicide involontaire. Si je comprends bien, c'était le minimum. On a besoin de plus et c'est juste un début. Il n'y a pas que la vie de George Floyd qui a été perdue.
Ces vies dont elle parle, c'est Trayvon Martin, Michael Brown, Eric Garner, tous morts dans des circonstances similaires ces dernières années. Un choc à chaque fois à l'origine du mouvement Black Lives Matter. Sauf que, Estelle, rien ne semble changer, d'où la lassitude, la colère, qui constitue le carburant de ces rassemblements à Minneapolis et partout dans le pays.
Merci beaucoup Loïc Loury, en direct de Minneapolis pour France Inter. Et la mort de George Floyd à Minneapolis pourrait bien être un tournant dans la campagne, dans la course à la présidentielle aux États-Unis entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, notamment sur les questions de police et de justice. C'est ce que pense Jean-Éric Brana, il est maître de conférence à l'université Paris-Panthéon-Assas.
Donald Trump a des positions assez radicales là-dessus, un tout temps d'ordre à la manière des conservateurs américains, alors que Joe Biden a déjà annoncé qu'il allait tendre la main aux populations afro-américaines en parlant de racisme systémique, de besoin de reconstruire les relations à l'intérieur du pays. Deux projets totalement différents, l'un qui s'inscrit plutôt dans le passé, c'est celui de Donald Trump avec ce besoin d'ordre, et un autre qui s'inscrit dans le futur, puisque la société américaine est en train de radicalement changer. On sait que d'ici une quinzaine d'années, les minorités seront en réalité la majorité de la population, et Joe Biden veut être le trait d'union qui amène vers cette société.
Des propos recueillis par Omar Waman, et cette fois ce n'est plus une menace. Donald Trump met fin à la relation entre les États-Unis et l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est trop indulgente envers la Chine, dit le président américain, qui accuse Pékin d'avoir laissé propager le coronavirus. L'OMS perd du coup environ 15% de ses ressources, et Donald Trump reproche également au régime chinois de ne pas respecter ses engagements concernant le territoire de Hong Kong, alors que la pandémie continue de faire des ravages aux États-Unis. 1225 morts de plus ces dernières 24 heures.
La crise du Covid-19 pourrait repousser le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie.
Il est prévu le 6 septembre prochain, mais communiqué de Matignon tôt ce matin pour cause de difficultés logistiques. Le Premier ministre propose de le reporter au 4 octobre. Un projet de décret remis sous 15 jours. Le texte devrait être présenté en Conseil des ministres dans la deuxième quinzaine de juin. Fin juin également, le second tour des élections municipales pour 5000 communes donc. Et plus que 3 jours pour déposer les listes pour ce scrutin, l'heure des dernières tractations à Perpignan notamment. La capitale des Pyrénées-Orientales pourrait se retrouver entre les mains du Rassemblement National et de Louis Alliot, arrivé largement en tête le 15 mars. Mais face à lui, Maxence Lambrecq, un front républicain se prépare.
Bis repetita, exactement comme en 2014, la gauche va s'effacer pour laisser le maire sortant LR affronter l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot contre Jean-Marc Pujol, alors qu'ils étaient quatre à pouvoir se maintenir. La semaine dernière, le député En Marche a entamé des discussions avec la candidate PS, Europe Écologie Les Verts. Tous deux étaient tentés de monter une troisième voie pour ne pas disparaître du paysage municipal. Mais les instituts de sondage et les états-majors parisiens les ont ramenés à la raison. En cas de triangulaire, le RN est sûr de l'emporter, avec en tête l'exemple de Béziers, ville voisine conquise en triangulaire par Robert Ménard il y a 6 ans. Le marcheur a donc été le premier à jeter l'éponge avant-hier et l'écologiste Agnès Langevin devrait le suivre tout à l'heure. Même casting donc qu'en 2014, mais rapport de force très différent. Le maire LR, âgé de 71 ans, a perdu au premier tour la moitié de ses électeurs et l'épidémie n'explique pas tout. 18% des voix seulement contre 35% pour Louis Alliot, qui a entre-temps décroché un siège de député de la cité catalane, rompu avec Marine Le Pen et abandonné la flamme du RN de ses affiches.
Maxence Lambrecq, l'épidémie de coronavirus en France, 28 714 morts depuis le 1er mars, mais la tendance se poursuit. Moins de malades en réanimation dans les hôpitaux, 68 de moins ces dernières 24 heures, mais la prudence toujours, 109 foyers repérés depuis le début du déconfinement. Sur le site de l'école militaire de Saint-Mexin-d'École dans les Deux-Sèvres, 34 cas positifs identifiés après une campagne massive de dépistage cette semaine.
Une manifestation ce matin à Maubeuge dans le Nord.
Élus, habitants, salariés de Renault appelés à se mobiliser pour soutenir MCA. L'usine est concernée par le plan d'économie du constructeur automobile qui prévoit 2 milliards d'économies sur 3 ans, 15 000 suppressions de postes dans le monde, dont 4 600 en France. La direction envisage de transférer une grande partie de l'activité du site du Maubeuge vers Douai. Les salariés ont fait grève hier, stupéfaits car leur usine fonctionne plus que bien. Martem Jérôme Delvaux, délégué CGT.
Nous sommes première usine du groupe en France et en Europe de loin, puisqu'aujourd'hui les salariés d'MCA produisent plus de 100 véhicules par salarié par an. Alors que les objectifs de Renault pour 2022 sont de produire 80 véhicules par salarié par an. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons à Renault et à M. Sénard, nous lui demandons de tenir ses engagements qu'il nous a tenus il y a quelques mois lorsqu'il est venu nous regarder les yeux dans les yeux syndicalistes, qui nous a dit « S'il y a bien une entreprise dans le groupe qui n'a aucune inquiétude à avoir, c'est vous MCA, vous êtes de loin les meilleurs. Et aujourd'hui, d'un revers de main, il nous balayerait. Non, c'est inacceptable. Aucune négociation n'est possible. Nous voulons garder notre entreprise dans l'état où elle est aujourd'hui, avec les salariés qui sont à l'intérieur et avec les véhicules que nous produisons de qualité. »
Jérôme Delvaux de la CGT Renault, joint par Emma Sarango de France Bleu Nord, et l'intersyndicale menace de bloquer à nouveau l'usine de Maubeuge si aucun accord n'était trouvé. Crise sanitaire, crise économique, on le voit, et sans doute une crise sociale à venir. Certains pays l'anticipent, comme en Espagne, où le gouvernement a approuvé hier la création d'un revenu minimum vital. Promesse depuis des mois, mais entrée en vigueur accélérée, Marie-Hélène Ballestero.
C'est un jour historique pour notre démocratie et c'est un honneur pour moi d'annoncer la naissance d'un nouveau droit social en Espagne. C'est ainsi que le leader de Podemos et vice-président du gouvernement Sanchez, Pablo Iglesias, a rendu officiel hier l'approbation du revenu minimum vital qui sera applicable dès le mois de juin. 850 000 familles devraient en bénéficier, soit 2,3 millions de personnes, dont 30% de mineurs. Les familles toucheront entre 462 euros mensuels pour une personne seule et 1015 euros maximum pour deux adultes et plus de deux enfants. Dotée d'une enveloppe annuelle de 3 milliards d'euros, cette mesure vise à lutter contre l'extrême pauvreté qui touche, selon le gouvernement, 600 000 foyers, soit 1,6 million de personnes en Espagne. Une pauvreté qui s'est fortement accrue avec la crise sanitaire, à l'image des queues interminables ces dernières semaines devant les banques alimentaires. Calculée en fonction des revenus, de la situation familiale et du patrimoine, cette nouvelle allocation sera compatible avec d'autres aides régionales et de faibles revenus pour ne pas décourager la recherche d'emploi. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
En France, c'est un long week-end de préparation pour les bars et restaurants partout en France. On pourra s'attabler à l'intérieur ou à l'extérieur en zone verte dès mardi prochain. En Ile-de-France, zone orange, ça sera possible uniquement en terrasse dans un premier temps. Mais partout, le maître mot, c'est distance. Pas évident pour les établissements peu spacieux où justement l'idée c'était d'être proches les uns des autres pour plus de convivialité. Illustration à Lyon, Mathilde Imberti.
Le F2, bar-restaurant de Frédéric Fasse, est a priori difficilement aménageable. Tout en hauteur, avec au rez-de-chaussée le bar, les tables à l'étage, réparties en plusieurs petites salles, des couloirs étroits, et dès l'entrée, on est dans l'ambiance.
Donc les bornes, on a mis des bornes à l'entrée, des bornes pour désinfecter les mains dès que les gens arrivent. On va imposer aux gens de mettre un masque dès qu'ils rentrent dans notre établissement.
Deuxième coup de semonce, le comptoir est condamné.
On enlève tout ce qui est tabouret au bar, parce qu'on n'aura pas le droit de recevoir de personnes au comptoir. Même pour un café, même pour un paiement, il n'y aura que le barman qui va travailler avec une visière.
À l'étage, les plexiglas amovibles ajoutent la petite touche amusante.
On a mis en fonction que vous posiez directement votre masque asséché en toute tranquillité. Vous avez un plexi qui fait repose-masque ou sac. Et ici, on a créé un petit truc pour poser les portables. On est bon, non ?
Avec toutes ces contraintes, le restaurant fera 50 couverts au mieux le midi contre 80 auparavant. Mais les 8 salariés, dont Christophe, qui gère tout le dispositif Covid-19, reprennent bien volontiers du service.
Ça va être sympa de retrouver un petit peu nos clients, de les revoir, de pouvoir discuter avec eux. C'est ça que ça nous a manqué pendant 2 mois quand même. C'était bien long.
À Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Et en Ile-de-France aujourd'hui, les premiers joggeurs et flâneurs sont déjà là. Réouverture des parcs et jardins. Ce matin, on ira faire un tour dans le journal de 9h.
Et on ne s'en privera pas. La sélection du prix du livre Inter avec la suite dans ce journal de la présentation des livres en compétition.
Avec les services compétents. Yegor Gran, édité par Paul pour services compétents, comprenez le KGB qui a poursuivi dans l'ex-URSS pendant des années le père de l'auteur, un dissident qui sera condamné à 7 ans de camp. Un livre plein d'humour tout en pudeur, une histoire familiale et l'histoire des années 60 à l'Est, raconte Yegor Gran.
Il voulait absolument écrire. Alors, il y a des textes sur le réalisme socialiste, mais il y a aussi surtout des nouvelles fantastiques. Or, le fantastique, c'est un genre mineur déjà en soi, mais en Union soviétique, encore plus mineur, c'est-à-dire déconsidéré, puisque ne répondant pas aux normes du progrès avec un but de victoire du prolétariat, on va dire. Lui, il voulait absolument raconter ces histoires-là, et donc c'est pour ça qu'il les a fait passer en Occident. Et même si tout était interdit, on pouvait espérer s'en tirer, non pas avec une balle dans la tête, mais avec quelques années de camp. Et c'est ce qui lui est arrivé ensuite, puisqu'il a été arrêté 6 années après son premier manuscrit, transmis en France, d'ailleurs, en septembre 65, après 6 années de traque. Mais pour moi, le grand mystère, en fait, quand je me suis attaqué à ce livre, c'était d'essayer de comprendre comment on fait ces services compétents, le KGB, qui sont pas réputés pour être mauvais, pour mettre autant de temps à attraper mon père, un intellectuel, ouais. Il marche lentement dans la rue, il a des lunettes. Et pourtant, ils mettent 6 années à l'attraper. Et c'était vraiment le point de départ.
Yegor Gran avec Eva Bétan, service compétent, édité par POL dans le journal de 13h. Aujourd'hui, un autre auteur en compétition pour Livre Inter, ça sera Monica Sabolo pour Eden. La colère toujours à l'Olympique Lyonnais. Le club a saisi la Ligue de foot professionnelle pour qu'elle réétudie sa position d'arrêter définitivement la saison de foot alors que d'autres pays comme l'Italie reprennent le championnat, sans doute le week-end des 20 et 21 juin. Mais il y aura en tout cas un tournoi professionnel en France en juin, du tennis, le premier depuis le début de l'épidémie, à partir du 13 juin, l'Ultimate Tennis Showdown, tournoi international, d'où son nom, qui se veut révolutionnaire. Son but, relancer l'attrait pour le tennis. À l'origine de ce tournoi, Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams et fondateur d'une académie de tennis, Fanny Lechevestrier.
Et c'est de la Côte d'Azur sur le site de l'académie Mouratoglou que doit venir le souffle du renouveau avec un tournoi privé composé de 10 joueurs pros comme Lucas Pouille, Benoît Paire ou encore David Goffin, 10e mondial. Un tournoi né d'un constat inquiétant dressé par son fondateur Patrick Mouratoglou.
La moyenne d'âge du fan de tennis est devenue quand même assez âgée puisqu'elle est de 61 ans. Un sport qui ne renouvelle pas ses fans et qui a une base de fans qui vieillit est un sport qui est en danger.
Et pour l'entraîneur de Serena Williams, pour conquérir un public plus jeune, il est capital de redonner sa place à l'émotion, de casser l'image lisse du tennis.
Tout est très policé, tout est très propre, ça manque de vraie personnalité. Et je pense que c'est dommage. Un film avec que des gens bien élevés et gentils, n'y a plus de scénario, il n'y a plus de film. Mais c'est un peu ça qu'on vit sur un court de tennis.
Le renouveau passe donc par des matchs plus courts, plus rythmés, en s'inspirant de la NBA aussi, avec des joueurs qui pourront s'exprimer librement, casser une raquette s'ils le veulent.
On va évidemment inciter les joueurs à exprimer toutes leurs émotions, ce qu'ils disent potentiellement à l'arbitre ou à leur adversaire. Un joueur qui a envie de casser sa raquette, ça ne regarde que lui. Les gens ont le droit de trouver ça pas normal. Ça fait réagir, ça fait du spectacle. Le fond du truc, c'est que j'ai envie que les gens qui regardent le tennis demain, bah, ils sautent de leur canapé toutes les 5 minutes parce qu'ils sont surpris, choqués. Et c'est ça la réussite d'un spectacle. Et le sport, c'est aussi du spectacle.
Le tout avec la mise en place d'une interaction constante avec le public resté chez lui. Quant à la diffusion, elle se fera via une plateforme dédiée comme Netflix avec un abonnement à prendre. 4 matchs par week-end doivent aussi être retransmis sur une chaîne de télévision pour aller chercher les nouveaux fans.
Voilà, Fanny Lechevestrier, et des lancers de raquettes aussi dans ce studio entre vous, Patrice et Eric.
C'était match, c'est ça, c'était le journal d'Estelle Schmitt.